Donc si le tribunal pose ces questions-là, c'est qu'il estime qu'il y a effectivement une grosse difficulté par rapport à ces autorisations de mise sur le marché, par rapport à ces pesticides qui sont insuffisamment évalués.
On s'aperçoit par de nombreux aspects qu'en fait tout ne va pas bien et que les produits mis sur le marché ne sont pas aussi sûrs qu'on veut bien nous le dire.
Lorsque l'équipe de Gilles-Éric Serralini s'intéresse à la composition réelle des produits commercialisés, ils y retrouvent de l'arsenic, du plomb et des métaux lourds.
Si on a ces problèmes de gens qui pissent du glyphosate, de pollution de l'environnement, de toxicité, il y a un problème qui se joue dans le processus d'autorisation de mise sur le marché.
C'est une grande première en Europe, effectivement. Il n'y a jamais eu un tribunal qui interrogeait la Cour européenne sur ce type de sujet.
Le législateur n'a pas pensé nécessaire ou efficace de demander que toutes les formulations soient testées.
Ils essayent de justifier leur évaluation en disant « Mais vous comprenez, nous on fait des modélisations théoriques très compliquées. »
Rien que l'application de cette réglementation ferait que une très grande quantité des pesticides qui sont vendus et mis sur le marché actuellement dans toute l'Europe seraient invendable.
Il est très important que le public comprenne que l'agroécologie, c'est un ensemble de bonnes pratiques en matière agronomique dont on a aujourd'hui, au XXIe siècle, besoin plus que jamais.
Comment amener notre modèle agricole de l'agrochimie vers l'agroécologie ?
Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on fasse le constat des différents écueils, des différentes incohérences qu'il y a dans ces procédures d'homologation et qu'au bout du bout, on fasse évoluer la façon dont on met en marché des pesticides. Les utopies d'hier sont les réalités d'aujourd'hui, et les utopies d'aujourd'hui sûrement les réalités de demain. Qu'on fasse le constat qu'il faut qu'on arrête complètement l'utilisation des pesticides. Je suis peut-être un optimiste maladif, mais j'y crois.
Là, moi je considère Secret Toxique comme une machine de guerre pour attaquer la législation sur les pesticides.
Secret Toxique est une campagne qui s'est mise en place suite à l'étude scientifique de bidons de pesticides où ont été retrouvées des dizaines de molécules non déclarées, dangereuses et pour certaines interdites, dont l'arsenic, le plomb et des dérivés de pétrole. Pendant plus d'un an, l'équipe de Secret Toxique a mené un travail d'enquête pour comprendre les failles et les fraudes qui font que la quasi-totalité des pesticides sur le marché sont aujourd'hui bourrés de produits interdits et dangereux. Dans ce documentaire, l'équipe de Secret Toxique vous expliquera comment on en est arrivé à retrouver des pesticides toxiques dans nos champs et dans nos assiettes, comment est évaluée la toxicité des pesticides en France et en Europe, qu'est-ce qui est ressorti des échanges avec les agences sanitaires européennes et françaises, et enfin, quelles sont les alternatives. Secret Toxique sera donc projeté ce mardi 13 septembre à 20h30 à l'Astrolabe. Ce sera suivi d'un débat animé par les membres de Secret Toxique de Vigilance OGM 46, des faucheurs et faucheuses volontaires, ainsi que de la Confédération Paysanne du Lot. Une soirée réalisée en partenariat avec les cinémas du Grand Figeac. Je suis avec Rémi de la Conf et Rémi des faucheurs. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Donc Secret Toxique, c'est un documentaire qui a été réalisé par des militants et des militantes. Qui sont-ils et que dénoncent-ils ?
Ils se sont créés, c'est récent finalement, il y a un peu plus d'un an. Il y a des savants, il y a des journalistes, il y a des faucheurs volontaires et surtout, j'ai envie de dire, il y a des paysans. Voilà. L'objectif, c'est d'essayer de comprendre et de dénoncer, surtout maintenant, pourquoi les agences sanitaires, tant françaises qu'européennes, autorisent des pesticides, qui sont réellement des poisons, qui sont reconnus comme tels par la plupart des savants indépendants des firmes, des multinationales. Pourquoi est-ce que c'est encore autorisé ? Donc, il y a eu tout un travail énorme de fait avec des laboratoires et des savants, notamment Serralini, pour analyser non pas la molécule officielle annoncée par les industriels, mais les sous-produits qui composent finalement l'ensemble de ce qu'on trouve sur le marché, et du coup chez les agriculteurs, et dans les champs, et dans nos assiettes. Mmh. Et là, on se rend compte que c'est évidemment bien pire. Le drame, c'est que les agences sanitaires, finalement, n'exploitent que ce que leur donnent les industriels. Et c'est vraiment scandaleux, puisque évidemment, ils n'ont pas intérêt à dire qu'ils vendent du poison, ces gens-là. Mmh. Donc, ils ne le disent pas. Mais si on analyse le produit en détail, on trouve des choses bien plus dangereuses, de l'arsenic, du plomb, des dérivés, du pétrole.
Les hydrocarbures et tout ça. Ouais. Et du coup, ils évaluent seulement la moitié du produit. Seulement la moitié du produit qui est mis ensuite sur le marché dans les pays.
Alors comment on se rend compte de ça justement ? Parce que quand on lit juste les étiquettes, même le produit greenwashing où il y a un simple pesticide, on va dire vert, puisqu'on on nous le vend comme ça, il y en a aussi, mais ce n'est pas marqué sur l'étiquette.
Bah, non, on va répéter la même chose, ils vont pas le mettre, ils ne veulent pas le mettre tant que ça ne le sera pas obligatoire. Donc la lutte, elle est là, finalement, d'exiger qu'enfin, les produits, avant même d'être interdits, s'ils doivent l'être, qu'au moins on sache ce qu'il y a dedans. Or, pour le moment, c'est totalement opaque, dissimulé par les industriels, évidemment. Mais ce qui est plus grave encore, finalement, parce que eux, ça paraît logique, ils sont là pour vendre leur saloperie. Mais ce qui est vraiment pas normal, c'est que les agences sanitaires qui autorisent ces produits-là n'analysent pas l'ensemble des produits, quoi. Mmh. Et ça, c'est monstrueux, parce que du coup, c'est ce qu'on bouffe. C'est évident que tout est lié. Les gouvernants sont les amis des multinationales. Il ne faut pas se cacher. C'est une évidence. Pas dans tous les pays du monde, mais dans une grande partie, et du moins le monde occidental. Ça s'appelle le système capitaliste, ça s'appelle le système industriel qui nous envoie dans le mur depuis 2 siècles et on s'en rapproche de manière exponentielle. Donc là, aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont quand même connues par-ci, par-là, les infos, les films documentaires, la fête des faucheurs, la conf, mais plein de gens, plein de paysans aussi. N'oublions pas, et tu le disais Rémi tout à l'heure hors micro, que ce sont d'abord les paysans qui sont les premières victimes. On a un ami paysan qui est mort de Parkinson il y a 3 ans, quelques mois après avoir été témoin d'un procès des faucheurs volontaires.
Et il y a tout un tas de paysans justement qui sont du coup confrontés et au plus proche de l'usage des pesticides, parce que du coup l'utilisent aussi. L'usage des pesticides crée un cercle vicieux là, qui maintient la dépendance des paysans pour le plus grand profit des lobbies pharmaceutiques. Du coup, en fait, c'est une sorte de cycle dans lequel se retrouve le paysan, parce que du coup, comme il utilise sans cesse les produits phytopharmaceutiques pour ses plants, que du coup, les plants vont se protéger d'une certaine manière, mais vont avoir besoin encore plus d'intrants pour pouvoir atteindre un maximum de protection. Qui est complètement surnaturel. De plus en plus de produits sont à racheter, ainsi de suite. Une nouvelle molécule est créée pour pouvoir aller plus loin dans le domaine, pour pouvoir faire en sorte que les plantes soient de plus en plus protectrices, enfin, que soient de plus en plus productives, et etc. quoi. Donc en fait, on est vraiment dans un truc, un échelonnage, un accroissement de la production des pesticides.
C'est ce que dénonce vraiment ce documentaire, Secret Toxique. Et il propose également des solutions. Il y a des paysans qui développent beaucoup l'agroécologie. Donc, est-ce que vous pouvez me dire en quoi consiste l'agroécologie, justement ?
Eh bien, l'agroécologie, c'est un ensemble de... C'est un ensemble de techniques, de techniques et de méthodes concernant l'écologie, l'agriculture, qui vise à proposer des nouvelles méthodes de culture tout en étant dans l'aspect de l'environnement et tout en étant dans la
biodiversité.
Dans la biodiversité aussi. Mais aussi dans une souveraineté qui est alimentaire dont on a fort besoin en ce moment, quoi.
Et qui permet justement de ne pas mettre ni de pesticides ni d'intrants de toutes sortes, d'avoir des cultures différentes au lieu d'avoir de la monoculture telle que nous imposent les agro-industriels.
Oui, et puis cette monoculture, elle est de moins en moins faite pour nourrir les humains.
Bien sûr.
En fait, aujourd'hui encore, plus de 70% de l'alimentation humaine est produite par ce que j'appelle les vrais paysans. Donc que ce soit l'agroforesterie, la permaculture ou une paysannerie plus ancienne, mais en tout cas en dehors de la chimie. Donc tout le reste, ça ne veut rien dire. c'est juste des hectares, c'est juste du business, c'est juste coté en bourse, et c'est maintenant, surtout pour nourrir beaucoup trop d'animaux, mais ça on commence bien à le savoir, hein, qui produisent trop de méthane, etc. Et puis aujourd'hui, ça va encore plus loin, puisque maintenant, on fait ce qu'ils appellent des biocarburants. Le mot bio est évidemment utilisé à des fins dégueulasses, c'est de l'agrocarburant, ça n'a rien de bio du tout. Et puis maintenant, il y a ce qu'on fait avec la méthanisation pour obtenir un peu de gaz et d'électricité. Donc en gros, on est en train d'assister à une mutation terrifiante de la paysannerie en demandant aux exploitants agricoles de nourrir les bagnoles et nos machines à laver, enfin de l'électricité, et non plus de nourrir l'humanité. Alors que les vrais paysans, eux, le font toujours et très bien, et sans abîmer ni les sols, ni notre santé, ni quoi que ce soit.
Alors, c'est vrai que nous, ici, dans le Lot, on est quand même, j'ai envie de dire, assez préservés, puisqu'on a des petites parcelles, on n'a pas des énormes parcelles telles que dans la Beauce, par exemple, où il y a des hectares et des hectares de blé ou je ne sais quel autre...
Betteraves,
etc. Mais est-ce que, justement, si on mettait un bout du Lot dans la Beauce, par exemple, est-ce que ça serait possible de revenir à des cultures paysannes telles que nous, on peut le concevoir à petite échelle?
Mais bien entendu. Tout est une affaire de normes et de taille, quoi. C'est l'obsession des gros. Il ne faut pas oublier que la PAC joue beaucoup là-dedans, puisque plus ils ont d'hectares, plus ils touchent d'argent européen. Donc c'est un cercle vicieux. Mais à tous les niveaux, on marche sur la tête. Si tu parles de la Beauce, moi ça me fait penser aux renards. C'est joli ces animaux-là.
Oui.
Bon, il n'y en a quasiment plus dans la Beauce. Ils les ont exterminés. C'est un animal nuisible. Ils ont oublié de réaliser, et on peut le trouver... sur Internet, comme dans toutes les bonnes encyclopédies, que le renard est l'ami du paysan. Le renard, son meilleur job et sa meilleure nourriture, c'est tout ce qui est mulot, souris, etc. Mmh. Donc, ils exterminent les renards et du coup, ils mettent des raticides dans les champs.
C'est ça.
Et, c'est vraiment n'importe quoi. C'est un petit exemple.
Mmh. Tout à fait. Est-ce que aujourd'hui, la solution, ça serait vraiment de revenir à une paysannerie plus à l'échelle humaine?
Il ne s'agit pas de revenir, il s'agit d'aller de l'avant. Parce que sinon, on va nous dire, vous êtes des Amish, vous voulez retourner au Moyen-Âge. Ce n'est pas ça du tout. Les paysans sont des gens intelligents comme les autres, ils réfléchissent, ils trouvent des nouvelles solutions. La permaculture, on n'en parlait pas il y a encore 15 ans. Hein. Voilà. Ni même l'agroforesterie, même si elle se pratiquait dans de nombreux autres pays sous des noms différents. Dans la cordillère des Andes, l'agroforesterie, ça a toujours eu lieu et ça nourrit très très bien ces pays-là. Donc il ne s'agit pas, surtout pas d'aller en arrière, c'est un peu comme les toilettes sèches, on va nous dire, bien entendu, c'est comme du temps de la grand-mère, on allait derrière la maison. C'est des conneries tout ça, c'est juste faire les choses dans...
C'est juste une autre façon de penser, quoi.
De penser et puis de faire avec une logique évidente, quoi. Pourquoi en France on en est encore à utiliser 10 litres d'eau potable chaque fois qu'on fait pipi? C'est juste absurde. Si au minimum on récupérait l'eau de pluie des toits, et ce serait possible partout, même dans les villes, voilà, l'eau potable va devenir un bien difficile et de plus en plus cher, et on en aura de moins en moins, mais on continue à le gaspiller. On sort peut-être du sujet, là.
Non, pas vraiment, puisque dans ce documentaire, beaucoup de choses sont abordées. Comment aller de l'avant, comme tu le dis, mais aussi... essayer de faire changer la mentalité des gens. C'est un peu ça l'objectif de ce documentaire, je crois, c'est essayer de faire changer les mentalités.
C'est ça, et également de permettre à ce que chacun, par ce changement de mentalité, puisse agir aussi au jour le jour ou autour de lui. L'idée, c'est aussi que les gens se lèvent, prennent place dans ce combat, parce que comme c'est très bien dit dans le film, là, on s'attaque à une montagne, une montagne qui est juste énormissime parce qu'il y a des ressources qui sont énormes et que de toute manière, si on attend que le temps passe, le combat est déjà perdu d'avance. Et du coup, si on est tous ensemble face à cette montagne pour pouvoir enfin qu'on ait des paysans qui soient donc valorisés à leur juste valeur, ce qui veut dire la même chose, mais du coup, avec des salaires décents, justes, mais aussi qu'on puisse permettre à ce qu'il y ait une transition vers l'agriculture paysanne et biologique, mais que du coup, il y a un soutien économique derrière pour permettre tout ça. Se rendre compte que des tas de paysans sont en train de mourir parce qu'ils sont les plus proches, comme on disait tout à l'heure, de ces produits phytopharmaceutiques. Du coup, l'idée, ce serait vraiment de... L'idée, c'est du coup de ne pas régresser, effectivement, mais d'aller vers une transition économique, sociale et environnementale, quoi.
Non, mais tu as raison, il faut parler de tout ça. Moi, j'ai envie de rajouter que je serais vraiment très... Enfin, on serait très content qu'à la projection de ces deux films, il y ait nombre de paysans qui viennent. Parce oui. qu'ils ont besoin... On leur ment tellement depuis la Deuxième Guerre mondiale. On leur a fait faire un cheminement totalement absurde. Mmh. Moi, je dis quelquefois qu'on est encore dans les néfastes productions du nazisme, qui n'est autre qu'un aspect du capitalisme exacerbé, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé en 45? Soi-disant, les Français ont faim. C'est pas soi-disant, c'est vrai. Et c'est un peu dans toute l'Europe. Il y a le plan Marshall, ok, les Américains voudraient bien envahir l'Europe telle que l'a fait Hitler, finalement, parce que tout ça est très proche, j'ose le dire. Et alors on amène des centaines, des milliers de tracteurs, de moissonneux, des grosses machines, etc. Et l'État français dit aux paysans, et oh là là, il faut produire beaucoup plus. Ok, on a faim. Sauf qu'en 1948, donc moins de 3 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la France est déjà devenue le deuxième pays exportateur d'alimentation. Donc il y avait un énorme mensonge. La question, elle était économique. Il faut produire pour exporter.
Oui.
Voilà. Et tout ça, et c'est là qu'arrivent justement les engrais et les pesticides qui, au départ, sont des restes de ce qui se passait dans les camps hitlériens. Il ne faut pas l'oublier. Et les engrais et les pesticides. Donc après, c'est un enchaînement. Rappelons-nous aussi qu'il y a une photo qu'on ne montre pas assez, où on voit un dirigeant de Bayer et un dirigeant de Monsanto, tous les deux condamnés au tribunal de Nuremberg en 1947. Maintenant, ils sont mariés. À l'époque, ils étaient déjà fiancés, ces salopards. Voilà.
Donc, et c'est ce que dénonce aussi dans ce documentaire. On voit que le questionnement... débutait déjà à cette époque-là.
Bien sûr, ça commence là, même déjà entre les deux guerres mondiales, mais surtout après la deuxième.
Donc déjà, les apiculteurs se posaient déjà un tas de questions sur la suppression des insectes, sur...
C'est ça, c'est...
Ouais, puis on leur ment vraiment, parce que tout ça, Rémi en parlait tout à l'heure par rapport aux herbicides. La nature se défend d'une certaine manière. Donc, nombre de plantes deviennent de plus en plus résistantes aux pesticides qu'on met dans les champs. Donc, on est obligé de mettre des pesticides encore plus puissants.
C'est ça.
Donc,
ça
peut aller très loin comme ça.
Ça en devient une sorte de béquille indispensable à ce type d'agriculture, quoi.
Oui.
Voilà.
On pourrait encore en parler longuement puisqu'on n'a pas, parlé de tous ces biologistes aussi qui se sont investis comme Gilles-Éric Séralini, comme d'autres aussi.
Qui a fait un travail énorme. Son nouveau laboratoire en Allemagne, puisqu'ils ont vraiment analysé ce que personne ne faisait jusque-là, quels sont les sous-produits qu'il y a dans le produit final.
Mm-hmm.
Et les surprises sont colossales.
Il s'avère qu'ils sont, Gilles-Éric Séralini, ils sont indépendants. Enfin, son équipe, c'est une équipe de scientifiques indépendants.
Qui veut dire indépendant, qui ne touche pas d'argent de l'État.
Voilà.
Donc, ni des entreprises.
Ni des entreprises.
Ce qui en dit long, du coup, sur pourquoi eux, eux, se sont penchés là-dessus.
Oui, tout à fait.
Après, il y a des politiques qui sont dans le film aussi. Il y a Benoît Biteau, qui est quand même un député européen, mais qui est paysan par ailleurs et qui a très bien compris. Il y a un avocat des faucheurs, Guillaume Thumerel, qui intervient. Olivier de Schutter, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui a travaillé longtemps à l'ONU sur les questions de l'alimentation. Bon, bah, tous ces gens-là sont d'une limpidité. Philippe Piard, qui est un paysan aussi... Ils ont tous commencé dans le conventionnel, d'ailleurs.
Hein, oui.
Autant Bito que Pierre. Et puis un jour, ils ont réfléchi, ils ont vu des films, ils ont entendu d'autres versions, ils se sont convertis en bio. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils en sont contents. Après, on dit aussi qu'il y a un paysan, mais ce n'est pas un paysan, un exploitant agricole qui se suicide quasiment tous les jours en France. Mais on remarquera que ce n'est ni les très gros, qui évidemment roulent en grande Mercedes, ni les bio. Parce que les bio, ils ne suscitent pas. Les bio, ils s'en sortent beaucoup mieux. Je ne dis pas que c'est facile. De toute manière, le travail de paysan, et notamment de maraîchage, ça restera toujours un travail. Il faut avoir la passion, la foi dans le truc, parce que c'est des métiers quand même un petit peu difficiles, mais tellement beau, tellement magnifique de nourrir les autres, quoi. Mais en tout cas, les bio s'en sortent beaucoup mieux financièrement. Donc les autres devraient comprendre aussi. Parce que qu'est-ce qui se passe finalement ? C'est le ministère de l'Agriculture qui en fait est détenu par la FNSEA, qui elle-même est détenue par les lobbyistes, des industriels, semenciers et chimiques. Tout ça, c'est un cercle vicieux. Après, ça arrive dans les coopératives, j'en nommerai pas, mais il y en a une à Figeac assez conséquente. Et voilà, et les agriculteurs se sentent obligés de faire ce qu'on leur dit, et après ils sont coincés, ils sont endettés au Crédit Agricole, etc., à vie, puis ils finissent par se suicider. Donc tout ça est un cercle vicieux dont il faut, y a urgence à en sortir, parce qu'on nourrira jamais les 10 milliards d'habitants qu'on nous prévoit là dans 20, 30, 40 ans, je ne sais pas quoi, avec cette chimie, ça c'est juste impossible.
C'est ce que veut nous faire croire Bayer et Monsanto dans, justement dans la très jolie publicité dénoncée dans le documentaire.
Avec le petit chat qui est mignon.
Avec le petit chaton.
D'ailleurs, l'agriculture paysanne invite à remettre en cause le système et propose des orientations pour une agriculture plutôt économe, préservatrice de ses propres ressources et proche des territoires et des hommes. L'objectif, ce n'est pas de nourrir le monde, comme tu disais, mais de permettre au monde de se nourrir grâce à des paysans territoriaux et nombreux.
Oui. Ouais, tout à fait. Donc tout ça à découvrir dans ce documentaire Secret Toxique le 13 septembre prochain. Et ce documentaire sera précédé par un autre documentaire d'une vingtaine de minutes. Rémi, je te laisse le présenter.
C'est un film un petit peu plus technique sur les NBT, New Breeding Technique. Les nouveaux OGM. Donc en fait, parce qu'il y a une confusion énorme dans les populations, ça aussi c'est orchestré, c'est voulu, c'est pas pour rien. Grâce aux faucheurs volontaires en particulier, mais pas que eux, on a obtenu qu'il n'y ait plus de culture OGM en France et en Europe. Enfin, en Europe, il reste l'Espagne et un tout petit peu au Portugal, du transgénique. On ne va pas rentrer dans la technique. Dans le même laps de temps, se sont développées d'énormes importations de transgéniques. Donc on n'a plus rien à cultiver, mais on en utilise. Et puis les nouvelles technologies à base de mutagénèse in vivo, in vitro, tout ça c'est complexe, ok. Toujours est-il que ces nouvelles techniques, ce qui est important et qui est bien expliqué dans ce court-métrage là de 26 minutes, c'est que c'est aussi fait pour l'obtention des brevets.
Oui.
Donc ce film-là est beaucoup plus sur le problème de la brevetabilité du vivant, qui est aussi un problème très très grave. Parce que pourquoi ils fabriquent ces choses-là ? Après, ils en ont l'exclusivité, c'est-à-dire que les paysans qui, depuis des millénaires, et je ne veux pas parler de l'ancien temps, mais ça a toujours très bien marché jusqu'à encore maintenant, heureusement, notamment avec le réseau des semences paysannes, etc., les paysans, avec les nouvelles technologies, n'ont plus le droit de réutiliser les semences qu'ils récoltent. Sinon, ils sont punis, ils doivent payer, c'est breveté. Et ces multinationales essayent de faire croire, même sur une plante dont ils ont modifié juste un petit gène, ils ne brevettent pas le gène, ils brevettent la plante entière. Ils ont le droit pour le moment. Alors, en France, c'est plus ou moins interdit, mais là, ça devient quand même plus compliqué. Donc il faut aussi se battre sur... on ne peut pas breveter le vivant, quoi. Ça n'a pas de sens.
Oui, c'est vrai que c'est assez technique, mais très intéressant de ce point de vue-là, parce qu'on se rend compte que avec tous ces brevets, on arrive à privatiser une herbe.
Oui, quasiment.
Voilà, tout est monnayable, tout.
Et leur argument totalement fallacieux est de dire que ces mutations par mutagénèse et autres pourraient se faire d'une manière naturelle. Ce qui est faux.
Ce qui est faux.
Ce qui est faux. Et en tout cas, tous les savants, ils sont très très nombreux, indépendants des multinationales, démontrent que c'est faux. Ou si c'était le cas, ça prendrait des milliers et des milliers d'années. Donc on ne peut pas dire ça. C'est du mensonge, quoi. Mais après, tout s'explique bien. Là, j'ai deux chiffres sous les yeux. Là. Les industriels qui font pression pour déréglementer les nouveaux OGM, qu'on appelle donc les NBT, entre autres, avec CRISPR-Cas9, etc., ils contrôlent 63% du marché des semences mondiales. et comme par hasard aussi 75% du marché des pesticides. D'accord ? Donc avec, rien qu'avec ces chiffres, on comprend tout. Voilà, ce sont des bandits, il faut être clair, quoi. Il faut arrêter d'être politicien, il faut faire de la politique, de la vraie. En 1980, il y avait encore plus de 7000 fabricants de semences, d'accord ? Aujourd'hui, il en reste 4 qui détiennent les chiffres que je viens de donner. On peut les citer, c'est Bayer Monsanto, qui sont donc mariés, vu qu'ils étaient fiancés pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est Syngenta Chemchina, BASF et Daone DuPont. Ils sont 4 sur la planète à détenir presque tout le business des semences. Mais donc de ces vilaines semences. Hein. Après, il faut être positif parce qu'en même temps, un maximum d'alternatives se développent. Et on le voit chez nous dans le Lot. Le réseau des semences paysannes fait un travail fabuleux. La Conf, les Faucheurs, un tas d'autres associations. L'ADA, bien sûr. Voilà. Et ça se développe. Simplement, moi j'ai envie de dire, comme d'ailleurs le dit très bien Olivier de Schutter dans le film Secret Toxique, tout ça est très très bien, mais ça ne va pas assez vite.
Oui.
Parce qu'en face, ils sont tellement... c'est David et Goliath, quoi. Hein. Donc on a encore du travail. Il y a vraiment d'excellents intervenants dans ce film sur les NBT, dont Guy Kastler, qui est déjà venu à la Fête des Faucheurs en 2016, je crois, qui est un paysan, maintenant retraité, mais qui a un énorme savoir, qui parle aussi bien au Sénat, à la Cour européenne de justice, qui a été longtemps un des porte-parole de la Conf, qui a été un des créateurs du réseau des semences paysannes, et qui a un énorme savoir. Il est à la Via Campesina, hein, l'association, on va dire, internationale de paysans. Et donc, il sera d'ailleurs à la Fête des Faucheurs. Donc, c'est pas mal qu'on le voit un peu à l'écran avant. Mais il y a aussi Daniel Evin, un grand savant qui a quitté le HCB, le Haut Conseil des Biotechnologies. Yves Berthaud, pareil, directeur d'INRAE. Et Christian Vélo, que beaucoup de gens connaissent à Figeac, puisqu'on l'a déjà vu 2 fois. Et petit scoop, d'ailleurs, il ne pouvait pas venir là, mais il va venir très probablement en 2023. Soit à la Fête des Faucheurs, soit on fera une soirée spéciale avec lui dans une salle ici ou là.
Et avec lui, on comprend tout.
Oui, il est très pédagogue. On le disait hors micro, c'est vraiment quelqu'un qui explique les choses avec une grande simplicité.
Un scientifique qui parle avec des mots que l'on comprend, je trouve que c'est quand même très intéressant. C'est vrai. Tout ça pour en venir à la Fête des Faucheurs, justement, 30 septembre, 1er octobre prochain à Assier.
Alors, il y a une chronologie, cette soirée dont on parlait, c'est donc bien à l'Astrolabe, mardi en 8, le 13 septembre. Elle a aussi un objectif, comme on l'a déjà fait d'autres années, de faire une soirée dans un grand cinéma avant la Fête des Faucheurs pour l'annoncer. Et donc là, on va pouvoir annoncer 2 belles manifestations. Il y a la fête de la Confédération paysanne et de l'ADR le 17.
C'est la fête de l'agriculture. Septembre. C'est la fête de l'agriculture paysanne.
Voilà.
Ça se passe à la Dourmelle, à Iceps, au Gaec du Grain de Folie.
Voilà, pour ceux qui connaissent, des très très bons fromages de chèvre.
Et du pain.
Et des petits gâteaux.
Et
des pizzas.
Et voilà, il y a un petit marché sympa le vendredi. Voilà. Donc ça va se passer là ?
Ça va se passer ici, exactement. Voilà. Donc c'est sur la journée du 17 septembre, le samedi 17 septembre.
Et la Fête des Faucheurs, l'occasion d'en reparler,
voilà,
bien évidemment.
Qui vient 2 semaines après, le vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre. On est là ce soir même, c'est un scoop, en train de finaliser le flyer qui part en imprimerie lundi. Là.
Tout à fait. On peut dire que c'est à Assier.
Oui, on peut dire que c'est à Assier. On est content d'y revenir. On avait dû quitter à cause d'une certaine crise sanitaire 2 ans de suite. Ça nous a aussi compliqué la vie parce qu'on était habitué sur le week-end de Pâques qui était très pratique pour un tas de raisons. Donc à l'automne 2020, on a fait une fête beaucoup plus petite à Corps. En 2021, dans un lieu privé. Et là, on revient dans un village qui est quand même l'objectif, c'est-à-dire que c'est le maximum ouvert à tout public. Parce que dans les fermes, comme on l'a fait plusieurs fois, à la Rose ou à la ferme en paille, c'est magnifique, mais je fais partie de ceux qui pensent que c'est toujours un petit peu entre nous. On est là pour faire de l'information, donc dans un village, pourquoi pas à Figeac s'ils nous acceptent,
pourquoi
tu vois. Mais c'est là qu'on essaie de toucher plus de public, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à leur dire. Et ben donc on revient, on la refait que sur 2 jours, hein, on n'est pas reparti sur 3 jours, voilà. Mais il y aura quand même pas moins de 6 conférences.
On aura l'occasion de se revoir.
En détail.
Voilà, on va détailler un petit peu plus cette programmation dans quelques jours, et ainsi que la fête de l'agriculture paysanne.
Également.
Voilà, également.
Oui.
Merci beaucoup. Rendez-vous donc ce mardi 13 septembre à l'Astrolabe à partir de 20h30. L'entrée est libre. Ça, c'est oui. Important de l'entrée, le signaler également.
Voilà. Tout à fait. Mais une petite participation voilà. Sera bienvenue pour
bien
combler
sûr.
Les quelques frais d'organisation.
Bien sûr, entrée libre, ça ne veut pas dire entrée gratuite.
Voilà. Et ceux qui n'ont pas un sou, ils n'en mettent pas.
Voilà.
Ceux qui en ont beaucoup devraient en mettre beaucoup.
Exactement. Merci Rémi et Rémi.
Merci à
de
toi.
De rien, Fred.
Ciao, ciao.
Che morire essere impeggiate luca plantazione lenzo essere cremate essere impeggiate luca plantazione lenzo e si saper che morire per la riportanes de vivere e si saper che morire.